Alors, la pièce que vous nous proposez, là, la pièce qu'on va pouvoir voir au NAC le 17 février, elle était destinée d'abord à être présentée sur les planches. Vous l'avez par la suite adaptée au format vidéo. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'on on pense à des limites, mais bon, parfois l'adversité peut s'avérer être un outil créatif. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, cette adaptation-là?
Ça a été, tu sais, pendant la pandémie, les artistes en général, on a pas mal eu à s'adapter, à se réinventer, à penser à des nouvelles manières de diffuser nos œuvres. Alors, pour moi, c'est un peu le point culminant de tout ça, là, de voir à transposer une pièce de théâtre qui a été conçue pour un public dans une salle pour l'écran. Puis, pour moi, ça a été un immense apprentissage au niveau de ce qu'offre le médium du théâtre et ce qu'offre le médium de l'écran. Et comment est-ce que les deux se parlent? Des fois, c'est un vase communicant, mais il y a d'autres choses qui se transposent très, très mal à l'écran. Alors, vraiment, ça a été comme une sorte d'exploration de ce que sont ces médiums-là. Et comment est-ce qu'ils peuvent être arrimés ensemble? Si on ne voulait pas créer un film, on voulait quand même que ça paraisse qu'à l'origine, ce qu'on voulait faire, c'était une pièce de théâtre. Il y a plein d'exemples où on a fait cette convention théâtrale-là, est-ce qu'elle fonctionne à l'écran? Non, il faudra qu'on trouve autre chose. Mais, tu sais, des affaires comme des changements de décor. D'habitude, les changements de décor, de la manière que moi, je voulais faire la mise en scène, les changements de décor allaient faire partie de la mise en scène, c'est-à-dire qu'on voit les personnages bouger le décor. Et on a voulu conserver ça aussi dans le film. Alors, on voit parfois des murs bouger, puis des scènes changer, puis c'est très volontaire. Alors, tu sais, ça n'a pas été facile, ça a été un immense défi. Puis je pense qu'il y a des bons coups, puis il y a des moins bons coups, mais je pense que le film est pas mal testamentaire de l'histoire qu'on voulait livrer, puis ben, du fait que c'était une pièce de théâtre, tu sais, qui est devenue un film. C'est pour ça qu'on appelle ça du ciné-théâtre.
Du ciné-théâtre. Pour les comédiens, est-ce que ça a été un défi, peut-être des comédiens qui s'attendaient à jouer devant un public?
Ils ont vraiment bien relevé le défi. Certains des comédiennes avaient déjà joué pour la caméra, d'autres non. Alors, ça a été vraiment un processus d'apprentissage pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un tournage, puis une répétition où on n'a pas nécessairement les mêmes... Il y a beaucoup de coupures ou de moments de pause où il faut comme attendre, puis là, tout de suite, rembarquer dans l'émotion. Alors, je pense que ça a été un défi pour certains. Évidemment, ils se sont adaptés. Et puis, l'autre élément dont je voulais parler, c'est que, en fait, à travers l'œuvre, on voit vraiment comme des plans de plus en plus rapprochés du début à la fin. Puis ça, c'est pour un peu traduire la tension qui augmente, l'espèce de confinement ou l'espèce de resserrement qu'on ressent devant le public. Ce qu'on allait faire, c'était de rapprocher de plus en plus les morceaux de décor, ce qui se fait aussi un peu dans la version filmée. Mais cette notion des plans de plus en plus rapprochés, c'est quelque chose qu'on peut pas nécessairement faire au théâtre, de changer un peu le regard. Mais ouais, ça aussi, ça a été intéressant pour nos comédiens de se faire suivre vraiment de près par les caméras.
En fait, c'est un super bon exemple, Amber, de comment on a transposé quelque chose de très théâtral à l'écran. C'est que, comme dit Amber, dans la pièce, on voulait... Tous nos morceaux de décor étaient ces trois gros morceaux modulaires sur roues. Alors, c'est un couple qui est dans une maison, puis les murs de la maison se resserrent sur eux. Mm-hmm. Puis, vu que la caméra, c'était pas une caméra fixe, le caméraman, il se promenait, puis tout ça. Alors, le point de vue n'est pas fixe, tandis que quand tu es un public assis dans une salle, ton point de vue est fixe. Alors, on voyait pas vraiment à l'écran l'effet des murs qui se resserrent. Alors, la solution qu'on a trouvée, c'est ça. C'est que à chaque acte, les plans deviennent plus serrés sur les visages, puis on s'en rend peut-être pas compte comme spectateur, mais on finit par se sentir un peu pogné, tu sais, un peu comme un personnage. Puis dans le dernier acte, il y a comme une espèce de libération, et puis on revient au plan très large, ce qui nous permet de reprendre notre souffle, tu sais, de respirer de nouveau. Mm-hmm. Alors, c'est un peu l'effet qu'on a cherché à créer, puis au spectateur de nous dire si ça fonctionne.
Parlons de la pièce. Madame O'Reilly, vous parlez dans la description, là, vous dites vouloir raconter les mots, le mal, hein, M-A-U-X, les mots et les amours de votre génération. Quelle est votre perception sur les mots et les amours de votre génération? Qu'est-ce que vous vouliez nous raconter?
C'est sûr que je ne peux pas traduire l'expérience de tout le monde, mais c'est une version, disons, de quelque chose que j'ai vécu. Donc, je voulais un peu exposer, décortiquer la monotonie qui peut s'installer dans les relations de couple à long terme, qui est exacerbée par le capitalisme. On va se le dire. On habite dans une société capitaliste et je dirais que notre génération en souffre et doit vraiment faire tête avec ça. Donc, je voulais un peu parler de cette intersection entre monotonie dans un couple et une espèce de désespoir qui peut s'installer quand on peine à atteindre nos rêves. Le rêve, c'est un des éléments les plus importants du texte parce que les personnages ont des rêves un peu très personnels, très banals, mais qui les amènent à fantasmer ou à... je sais pas comment je pourrais...
Ça leur permet, pour moi, ça leur permet de... Ça permet aux personnages de quitter leur réalité. C'est comme un genre de bulle. Une bulle, mais je trouve que fantasme, c'est pas c'est un bon mot. Mm-hmm. En tout cas, c'est toi l'autrice, Amber. Je vais te laisser faire ta job.
Madame O'Reilly, on lit aussi que c'est une pièce là, à laquelle vous réfléchissez depuis 2018. C'était avant la pandémie. À lire la description de l'œuvre sans l'avoir vue, tout de suite, vous parlez d'une pièce qui se rétrécit, de la monotonie d'un couple. On pourrait faire un parallèle là, avec le huis clos imposé par la pandémie. Est-ce qu'on abuse de parallèle ici ou est-ce que ça va avoir joué finalement dans le produit final?
Mais c'est sûr que les spectateurs ont eu un contact avec l'œuvre en temps de pandémie. Alors peut-être que pour certains, la décrépitude qui s'est un peu installée chez Annie Tom pourrait faire écho à la réalité du moment. Je pense que Annie et Tom se sont un peu auto-confinés dans leur univers, dans la banalité de leur quotidien. Alors c'est sûr qu'il y a des liens à faire.
C'est disons que Thomas, c'est quelque chose qu'on avait réfléchi. On s'était dit est-ce qu'on exploite ça? Est-ce qu'on en a plus, Amber? Est-ce qu'on réécrit des scènes ou qu'on a des allusions à la COVID? Puis Amber avait vraiment décidé, non, écoute, j'ai pas vraiment envie de parler plus de la COVID, puis mon travail sur le texte est pas mal fait. Alors, on a pris le parti de pas en parler, même si on peut, en quelque sorte, le percevoir, là, si c'est ça qu'on cherche à voir, on peut le voir un peu.
Après tout, il y avait une vie avant la COVID et la monotonie existait aussi avant la COVID-19.
Ouais. Oui. Puis peut-être, Thomas, juste pour te dire, moi, ce qui m'a attiré à la pièce, c'est moi, je voulais vraiment travailler avec Amber, c'était la première chose. Mais aussi, ce qui m'a intéressé dans la pièce, c'était justement cette dichotomie entre le rêve et la réalité que les personnages vivent. Alors, ils sont constamment en train de parler au sujet de ce qu'ils souhaiteraient, puis ils retombent avec fracas dans leur vie quotidienne, qui est comme vraiment, c'est difficile à regarder, c'est difficile à voir. Puis je pense qu'on vit tout ça en quelque sorte. On a des rêves flyés, tout le monde. Puis surtout, comme tu dis, en temps de pandémie, ben on peut pas les atteindre. On a toutes sortes de limites. Les limites, c'est l'engagement qu'on a, nos responsabilités. Les limites sont financières. Les limites sont maintenant la COVID aussi. Alors, moi, ça m'avait fait du bien de ces personnages-là qui explorent la dichotomie entre les deux. Puis, OK, comment est-ce qu'on réconcilie, tu sais, comment est-ce qu'on se réconcilie avec notre réalité? Fait que, moi, c'est un des aspects de la pièce qui m'avait bien plu. Il y a peut-être un petit quelque chose à rajouter sur l'ironie du fait que dans la pièce, on parle beaucoup de cyberdépendance, qui est, je pense, une réalité que presque tout le monde peut se reconnaître là-dedans, mais finalement, on fait un film qui va être montré à l'écran. Alors, pour nous, je veux dire, même pour nous, il y avait quelque chose de drôle puis d'ironique là-dedans. Puis, écoute, c'était pas notre premier choix de faire un film, mais il y a peut-être quand même une. Tu sais, je pense que ce qui est le fun, puis on a vraiment fait ça à Winnipeg aussi, c'est qu'on voulait que du monde soit assise dans une salle ensemble pour garder ça. Au moins pour dire qu'on n'est pas tout seul chez nous, on ne peut pas nécessairement mettre ça sur pause ou. Tu sais, si on présente ça de manière cinéma en salle, on va quand même chercher un certain aspect de cette expérience collective, même s'il n'y a pas l'aspect live des comédiens en chair et en os devant nous.
Mm-hmm. Oui, parce que maintenant, la pièce, elle a sa propre vie, elle est encapsulée, elle est sur pellicule, là, si je peux employer un vieux terme, plutôt que d'être présentée là, sur les planches. Comment elle se porte, cette pièce? Quelle est sa relation avec le public? Comment est-ce que ça a été reçu jusqu'à maintenant?
Ce qui ressort pour moi, c'est les commentaires de membres justement de notre génération qui se sont tout de suite greffés ou c'est-à-dire ils se sont tout de suite vus un peu dans Annie Tom. Alors c'était un peu l'objectif de créer une œuvre qui pourrait un peu raconter nos réalités, je sais pas, créer un peu d'espoir aussi, parce que l'entretien du rêve est quand même quelque chose qui revient à la fin de la pièce.
Ouais, moi je pense que comme j'ai dit, je suis vraiment heureuse qu'on ait fait à Winnipeg pour commencer, puis ensuite à Yellowknife qui se sent bien, des projections où on a, en tout cas à Winnipeg, on a pu entendre les réactions du public, on était en salle avec eux, puis même pour nous, comme je pense qu'Amber et moi, on a travaillé tellement fort sur la post-production, sur le montage, sur la musique, que finalement on était assis dans une pièce avec, je pense qu'on était 70-80 personnes, puis on pouvait enfin vivre ça comme on pouvait le voir de l'extérieur, tu sais, sans avoir le nez dedans, puis penser, OK, comment est-ce qu'on l'améliore, aussi, puis ça. Fait que ça fait super du bien, puis je pense que la communauté, il faut reconnaître que dans presque toutes les facettes de ce projet-là, c'était une grande première. Pour Amber, c'est sa première pièce intégrale. Pour moi, c'était ma première mise en scène avec des comédiens professionnels. Puis, c'est la première fois que quiconque d'entre nous dans l'équipe, on essayait de transposer une pièce qu'on avait montée pour être présentée en salle, en film. C'était aussi la première fois que certains de nos concepteurs travaillaient pour faire du théâtre. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une grande première. Puis l'œuvre, c'est pas une œuvre parfaite. Elle a ses défauts. Puis, tu sais, on a fait un film avec un budget de théâtre. Ça se fait presque pas, ça, tu sais. Alors, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment fiers que cette pièce-là existe. Puis le fait aussi que, comme tu dis, elle est encapsulée, elle est empelliculée, c'est quand même cool de pouvoir dire, hey, ben, c'est peut-être pas éternel, mais comparé au théâtre qui est tellement éphémère, c'est quand même cool de pouvoir dire hey, en temps de pandémie, une gang d'artistes émergents avec un petit budget, on a fait ça. Alors, je pense que le public doit vraiment garder ça en tête quand il va regarder la pièce et dire hey, on a fait face à tellement d'embûches pour arriver à faire ça. C'est pas parfait, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont comme des graines de l'avenir de la carrière d'Amber, de nos comédiens aussi, de plusieurs concepteurs. Ce n'est qu'un début. Alors, moi, c'est vraiment ça qui me rend fière.
On va avoir très bientôt l'occasion de voir ça. Annie et Tom, du lundi au vendredi, qui va être présenté au NAC le 17 février. Amber O'Reilly, Marie-Ève Fontaine, merci beaucoup.
Merci.